différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Panique 105.4 dans l'émission Elles en parlent encore de Vie Féminine Bruxelles. Je suis Alexandra et aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'accueil de la petite enfance. Donc quelle politique égalitaire pour l'accueil de l'enfance? Donc en effet, chaque enfant a droit à une place d'accueil, mais dans la pratique c'est bien loin d'être le cas. Et pour les parents, la recherche d'un milieu d'accueil est un vrai parcours du combattant. Les listes d'attente sont interminables, les places sont trop peu nombreuses, les coûts sont souvent trop élevés. Donc c'est le système D, c'est la débrouille pour trouver des solutions de remplacement. Et quand c'est possible, les parents font appel à leur famille. En effet, l'obtention d'une place d'accueil conditionne la reprise du travail, mais l'accès est inégal car il diffère selon le statut des parents. Et Vie Féminine revendique depuis longtemps une politique d'accueil cohérente et égalitaire. Alors, tout récemment, après un long combat, les accueillantes viennent d'obtenir un statut complet, donc similaire à un statut d'employé, parce que jusque-là, elles ne l'avaient pas. C'est un premier pas, mais il y a encore bien d'autres choses. Le chemin est encore long pour parler d'une politique vraiment égalitaire. Donc, l'émission d'aujourd'hui est vraiment sera vraiment très utile et nous l'espérons pourra vous éclairer et nous éclairer sur un accueil sur toutes les conditions pour que l'accueil de l'enfant soit égalitaire. Donc, je suis avec trois invités à qui je vais demander de se présenter et donc ils travaillent pour Vie Féminine Bruxelles, chacune pour un projet différent. Voilà, je vous passe la parole.
Bonjour, je suis Isabelle Battista, je travaille pour le Ballon Rouge, pour le projet L'Aquarelle. Donc l'aquarelle est une halte d'accueil et on accueille en priorité des enfants de parents qui suivent une formation.
Merci. On expliquera peut-être par la suite les différents types de milieux d'accueil, donc entre halte accueil, crèche, voilà pour dresser un panorama complet de la situation.
Donc voilà, moi je suis Delphine Hertz, donc la responsable du Ballon Rouge, qui a donc un service d'accueillante conventionnée et l'aquarelle. Donc je vais un petit peu développer le service d'accueillante conventionnée, donc parce que les accueillantes conventionnées ne sont pas spécialement fort connues. Et donc ce sont des personnes qui, à leur domicile, vont aménager l'intérieur et répondre aux normes de l'ONE pour pouvoir accueillir jusqu'à 4, voire grand maximum 5 enfants. Donc voilà, et moi je suis depuis 9 mois responsable de ce service. Donc voilà, je débarque dans le secteur de la petite enfance.
D'accord, merci.
Et moi, je m'appelle Hélène Detrault, je suis responsable des consultations pour enfants dont Vie Féminine est le pouvoir organisateur. Et puis, un peu par le hasard des choses et des rencontres, je suis aussi responsable de la garderie parentale du Pas à Pas à Anderlecht.
Je vais te demander directement, est-ce que tu peux dire un petit mot sur ce qu'est une garderie parentale, juste rapidement, après on développera.
Le principe, c'est tout simple, c'est de se dire qu'il y avait un local qui servait de lieu de rencontre, qui était libre à certains moments, et que les mamans ont joué la solidarité, et elles gardent à tour de rôle les enfants de tous les enfants, de tous les parents, et c'est lié aussi à une formation, à un projet un peu de réinsertion professionnelle.
Merci Hélène. Isabelle, voilà, si tu peux juste expliquer en quelques mots ce qu'est une halte d'accueil.
Donc en fait, une halte d'accueil, donc c'est un milieu d'accueil, donc 0-3 ans, qui est autorisé par l'ONE. Donc ça veut dire qu'on n'est pas agréé et qu'on ne reçoit pas de subsides direct de l'ONE. Ce qui est particulier aussi dans une halte d'accueil, c'est qu'on peut accueillir en fait les enfants à des temps différents. Donc par exemple, pour nous, comme c'est en lien avec la formation, on peut accueillir un enfant une ou deux matinées par semaine. Donc voilà, je ne sais pas si c'est assez complet ou...
Oui, on pourra comparer par la suite. On va directement enchaîner par une petite pause musicale. Voilà, à tout de suite. Thank you.
choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Rebonjour, donc vous êtes toujours sur Radio Panique 105.4 dans l'émission Elles en parlent encore de Vie Féminine Bruxelles, aujourd'hui consacrée à l'accueil de la petite enfance. Donc avant la pause, nos trois invités donc se sont présentés. Alors pour la suite, je vous propose à chacune de prendre une situation, de la situation disons la plus fréquente que vous rencontrez, donc des parents qui viennent vous voir pour déposer leur enfant. À quelle situation vous êtes confronté le plus fréquemment et de vous mettre à la place de ces parents en tant que parents, quelles seraient pour vous les conditions optimales de l'accueil de leur enfant. Voilà, je sais pas qui veut commencer.
Ben voilà, moi je veux bien. Donc pour la halte accueil l'aquarelle, donc la situation la plus fréquente à laquelle je suis confrontée dans mon travail, donc c'est vraiment des parents qui sont en recherche de formation. Donc ils doivent trouver une formation rapidement donc pour pouvoir continuer à bénéficier de leur allocation, soit de CPS, soit du chômage. Et donc ce qui est un peu contradictoire, c'est que je ne peux accueillir l'enfant que quand j'ai la certitude que le parent est inscrit à une formation. Donc ils font vraiment une attestation avec le cachet de l'école. Et le parent ne peut s'inscrire à sa formation que s'il a la preuve que l'enfant est bien inscrit dans un milieu d'accueil. Donc déjà ça, je pense que pour les parents, c'est beaucoup de stress parce que bon, comment gérer toutes ces attestations à rendre et toutes ces preuves à fournir. Et puis donc nous, on peut accueillir seulement l'enfant le temps de la formation. Donc une fois que la formation est terminée, à l'aquarelle, on ne peut plus accueillir l'enfant. Alors pourquoi ? Parce que alors on n'a plus de financement. Donc ça veut dire que la maman, bon, admettons qu'elle ait bien réussi, qu'après elle a effectué un stage et qu'elle peut être engagée. Donc moi, je ne peux plus garder l'enfant. Donc elle a la possibilité de travailler, mais malheureusement, elle n'a plus de place pour son enfant.
C'est ça. Donc c'est un type d'accueil particulier qui est pour une période bien déterminée.
Oui, voilà. Donc vraiment en lien avec la formation et les jours de formation. Donc ça, c'est les pouvoirs subsidiants qui imposent ces critères d'accueil.
Et tu remarques que dans la pratique, ça pose vraiment problème parce qu'effectivement, alors il n'y a plus moyen de trouver de place ailleurs.
Ben, c'est terrible parce que l'enfant est habitué, je veux dire, à l'aquarelle, est habitué aux péricultrices. Les parents, les mamans sont rassurées aussi de l'accueil, de savoir qui s'occupe de leur enfant pendant qu'elles sont en formation. Et puis du jour au lendemain, on doit rompre ce lien avec le groupe d'enfants, avec les péricultrices, avec les autres mamans. Donc c'est vrai que c'est assez terrible pour les parents.
Donc, il y a un manque de cohérence là.
Totalement, oui. Donc en fait, ce serait l'idéal, c'est de pouvoir accueillir l'enfant, quelle que soit la situation du parent. Que le parent soit en formation, que le parent travaille, que le parent soit en recherche d'emploi, que le parent ait besoin de souffler, d'aller faire des démarches administratives, de se rendre chez le médecin sans être tout le temps accompagné de son enfant, parce que c'est peut-être pas le lieu non plus pour l'enfant. Et donc, malheureusement, c'est pas du tout comme ça actuellement.
Mais alors, quand j'entends ce que tu dis, alors ce serait une combinaison d'une garderie finalement semblable à une crèche et d'une halte d'accueil qui pourrait être accueillir des enfants de manière provisoire aussi.
Donc ce qui serait bien, c'est qu'on ait un type de milieu d'accueil une fois pour toutes et qu'on puisse accueillir l'enfant. Donc on part vraiment du besoin réel de l'enfant d'être accueilli, quelle que soit la situation de son parent. Donc on ne se préoccupe pas du statut social du parent.
Ce qui n'est pas le cas actuellement.
Du tout, non.
Je sais pas si l'une
en... Mais en tout cas, nous, c'est vrai qu'au moment des permanences, parce que nous, les inscriptions, etc., se font beaucoup par permanence, on se rencontre énormément qu'il y a beaucoup de parents qui, suite au chômage, doivent rechercher un emploi, ont peut-être une possibilité d'emploi, et finalement se retrouvent coincés à devoir en dernière minute trouver une place, ce qui à l'heure actuelle n'est absolument plus pensable, puisque si on ne sait pas, on n'a pas prévu au troisième mois révolu de grossesse une place en accueil, et encore, même si on s'y est pris à ce moment-là, il n'y a pas de certitude. certitude d'avoir une possibilité d'accueil, en tout cas à Bruxelles, c'est vraiment un grave problème. Et donc, ces parents arrivent vraiment démunis. Moi, j'ai régulièrement des parents qui pleurent au téléphone, qui me supplient de leur trouver une place, et qui, voilà, parce que ben, ils vont soit perdre leur emploi, parce que la période du congé maternité est finie, et qui n'ont pas la possibilité de placer leur enfant quelque part, qui n'ont pas toujours les ressources familiales nécessaires pour avoir la grand-mère, le grand-père, un oncle, une tante, un ami. Il y a des gens qui arrivent à Bruxelles sans aucune ressource, ou même qui n'en ont pas. Et donc, c'est vrai que ça pose vraiment un problème, quoi. On vit ça au quotidien, des gens en désarroi par rapport aux places d'accueil. Et c'est vrai que ça devrait être sans... les places devraient être en fonction... déjà du nombre d'enfants démographiquement qui existent à Bruxelles, tout simplement, et en Belgique, partout, et non pas en fonction des quotas européens ou des quotas de la région ou des communautés, quoi. Déjà, ça, c'est un principe de base, je pense.
Ben en fait ce que tu dis, je vais profiter de ce que tu dis pour rappeler, parce que je crois que c'est vraiment un point très important, la grille de lecture sur laquelle on a choisi de se baser pour une politique égalitaire, en tout cas à vie féminine, donc une grille de lecture au niveau économique. Donc là, tu viens d'en parler, justement, pourquoi faire cette différence entre le statut social des parents. Et au niveau du genre, effectivement, c'est vrai que finalement, la politique de l'accueil de l'enfant, c'est une politique de responsabilité collective, et donc qui doit pas simplement tomber sur les particuliers, mais qui doit vraiment être prise en charge par l'État.
C'est ce que nous, quand on rêve, on rêverait en fait qu'il y ait un ministère de la petite enfance. En tout cas, Isabelle et moi, et Hélène, on a déjà eu l'occasion d'en parler. On imaginerait que l'enfant a vraiment une place au niveau politique, qui ne serait pas soit liée à une politique de l'emploi, soit liée à une politique, enfin à tout type de politique, mais qui soit vraiment une politique de l'enfance. On se dit, ben voilà, on investit dans le citoyen de demain, et donc on lui offre la possibilité, que ce soit au niveau de la petite enfance, mais au niveau après, au niveau de sa scolarité, vraiment d'être accueillie. Et les impôts, plutôt que de faire payer aux parents une participation en fonction de leurs revenus, qui pose quand même un certain nombre de problématiques également, c'est pas évident. Enfin voilà, le calcul n'est pas toujours vraiment adéquat avec les situations, avec les changements de situation. Et ben du coup, on permettrait justement une continuité. Voilà, je pense que ça aiderait vraiment à devenir le citoyen de demain de manière beaucoup plus adéquate. Ça serait le plus logique, mais effectivement, c'est un peu encore fort dans nos rêves, oui. Malheureusement.
Oui, enfin, voilà, on a envie de faire avancer les choses, effectivement. Et c'est vrai que l'éducation, c'est un enjeu sociétal. Et juste pour information, en 2008, il n'y a que 1,2% du budget de la communauté française qui a été consacré à l'accueil des enfants de 0 à 3 ans. Donc, c'est vraiment très, très, très peu.
Oui.
Donc, voilà, je ne sais pas si Hélène, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qui s'est dit.
Oui, donc moi, dans mon projet, c'est un tout petit projet local, et c'est vrai que moi, je touche particulièrement des mamans qui n'ont pas pensé, qui n'ont pas imaginé mettre les enfants en crèche dès la naissance. C'est beaucoup de mamans d'origine étrangère, que ce soit première, deuxième ou troisième génération, mais voilà, et qui effectivement n'ont pas la famille près d'elles. Et ces mamans, au bout d'un certain temps, bon, il y en a certaines qui cherchent des activités pour les enfants et qui sont dans une démarche active, mais j'ai quand même la moitié de mes mamans qui sont des mamans qui, à un moment donné, se retrouvent vraiment avec un épuisement total de la situation, d'être tout le temps dans des appartements assez restreints. On est en tête à tête avec les enfants. Alors, elles cherchent pour les enfants un ailleurs où ils puissent jouer, rencontrer d'autres enfants, se préparer pour l'école, mais aussi pour elles, parce qu'elles sont vraiment parfois épuisées, vraiment loin dans la fatigue. Et c'est vrai que si tu me disais, tu me posais la question, enfin tu nous posais toute la question de savoir quel était un peu le cas classique. Et ben moi, j'ai deux cas classiques. J'ai les mamans très ouvertes qui disent, ben, il me faut des activités pour les enfants. Et puis j'ai les mamans vraiment épuisées, avec des enfants qui sont stressés, tendus. On sent que le mal-être de cette maman qui est coincée tout le temps tête à tête avec ses enfants se répercute sur les enfants. Et alors, dernièrement, j'ai eu deux situations où les enfants avaient 2 ans et demi. Les mamans avaient tenu à bout de bras ses enfants. Et puis, à 2 ans et demi, elles pensent qu'elles vont pouvoir déposer ses enfants à l'école et clac, pas de place à l'école. Et ça, c'est vraiment c'était pour ces familles-là une catastrophe terrible parce que tout d'un coup, la maman ne pouvait plus, quoi. C'était des enfants tendus, difficiles et tout. Et se dire qu'elle devait encore durer 6 mois et même plus que 6 mois parce que, en plus de ça, en dernier, la situation est terrible au niveau des écoles au point où on ne peut même pas garantir qu'au mois de septembre, il y a une place. C'était vraiment une catastrophe. Donc moi, je me retrouve avec, dans mon petit groupe de 6-7 enfants, avec 3 enfants qui devraient être à l'école et qui n'ont pas de place. Mm-hmm. C'est parce que la démographie à Bruxelles n'a pas que des conséquences par rapport à l'accueil de la petite enfance, mais aussi au niveau des écoles, la surpopulation des écoles, et puis le fait qu'on ne trouve pas de place pour mettre ses enfants à l'école. Et c'est toujours les populations les plus précaires qui évidemment en souffrent, parce qu'évidemment les gens qui ont la possibilité d'anticiper, quand l'enfant a 18 mois, ils cherchent l'école de leur rêve, mais les autres à 2 ans et demi, ils se retrouvent sans école.
Oui, bah ça rejoint en fait, ça rejoint aussi le troisième critère de cette grille de lecture. Donc il y a le point de vue économique, il y a le point de vue culturel, effectivement. Et à ce niveau-là, en t'entendant, je vois bien quelles peuvent être les discriminations, parce que j'imagine qu'effectivement tu parles de la commune d'Anderlecht et que la situation est peut-être différente dans d'autres communes, en tout cas que l'accueil de la petite enfance se pose d'une autre manière, quoi.
C'est-à-dire que tout l'ouest de Bruxelles est surchargé. Donc au départ c'était assez, enfin local, c'est beaucoup dire, c'était Anderlecht, Molenbeek, Laeken, mais sur Jette ça commence aussi à saturer, alors ils prennent des positions un peu protectionnistes en disant bon d'abord plus que les enfants de Jette et tout, et puis à un moment donné ça va aussi déborder, et il faudrait traverser la ville et aller vers l'est pour trouver une meilleure situation, mais alors... C'est les femmes qui conduisent les enfants à l'école, dans les crèches, et on n'a pas toujours la force, l'énergie de traverser la ville pour trouver un endroit où il y a un peu moins d'enfants par classe, et on va trouver peut-être un peu plus d'activités extrascolaires et des choses comme ça. On n'a pas toujours l'énergie et le choix aussi quand il faut aller travailler, aller conduire les enfants. En plus, il y a des discriminations aussi par rapport à l'extrascolaire, c'est que parfois les écoles ne gardent pas les enfants non plus, des mamans qui ne travaillent pas, donc comment trouver une formation, comment organiser sa vie, c'est plein de pièges qui gardent les mamans au foyer à la disposition de ses enfants, quel que soit finalement le prix à payer pour elles, pour la société et leurs enfants, quoi.
Oui, et puis le fait d'aller chercher des places dans d'autres communes, ça ne fait que reporter le problème, puisqu'il y a un manque de places en général, de toute façon, sur Bruxelles.
Mais c'est-à-dire que, par exemple, si tu vas à Molenbeek, tu as 17,5% de taux de couverture, donc c'est-à-dire sur 100 enfants qui naissent, il y a 17 places d'accueil. Et si tu vas à Oudergem, sur 100 enfants qui naissent, il y a 60 places d'accueil. Voilà, c'est la réalité. Et à Oudergem, ils sont aussi surchargés parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de demandes aussi. Et du coup, c'est aussi les mamans précaires d'Oudergem qui n'ont pas de possibilité quand elles cherchent à se réinsérer, à commencer par de l'alpha, par commencer par un groupe de parole avant d'aller vers un travail. C'est un problème qui est peut-être plus sensible dans certains quartiers, mais qui est généralisé. Quand on est précaire quelle que soit la commune.
D'accord. Et si vous deviez toutes les trois imaginer un lieu idéal qui pourrait rassembler toutes les conditions d'accueil optimal par rapport aux situations que vous vivez, est-ce que, par exemple, le multi-accueil, des endroits où on puisse accueillir différents types de parents, pour différents types d'accueil, est-ce que ce serait une solution? Ou est-ce qu'il faut garder des lieux d'accueil séparés pour chaque type d'accueil, je sais pas si
pour
vous...
chaque situation familiale entre guillemets, parce que c'est un peu dans ça qu'on est. Moi, le constat, c'est que par exemple aussi quelque chose que je voulais préciser par rapport à ce que disait Hélène, c'est que dans les crèches entre guillemets classiques, ou je sais pas comment on peut les appeler, on se rend compte aussi que voilà, du coup, comme la demande est énorme proportionnellement à l'offre, il y a une sélection qui se fait, comme il peut y avoir une sélection en secondaire. On avait entendu beaucoup parler de la première secondaire, les files, etc. Ben maintenant, on en arrive à ça dans les 0-3 ans. Je veux dire, les parents qui travaillent pas au niveau de la sélection ne sont pas, ne sont moins accueillis, ou en tout cas, voilà. voilà, pour l'avoir entendu, pour l'avoir vécu, l'avoir suivi par rapport à des parents, ben voilà, ils sont pas prioritaires, vous n'êtes ni de la commune, et en plus, un des deux ne travaille pas, ou les deux ne travaillent pas. Ah non, écoutez, c'est priorité, et donc, il y a certaines communes qui fixent des points, par exemple. Et donc, on en est vraiment dans un, on est arrivé dans un schéma, en fait, où le système actuel met vraiment les gens les uns contre les autres aussi, quoi. Je veux dire,
Tu parles de points, tu veux dire quoi exactement?
Par exemple, donc, si on a déjà eu des frères et des sœurs accueillis dans la crèche, ben, on a un avantage. Si on habite sur la commune, on a un avantage. Si on est employé, donc un salaire pour un parent, pour le deuxième parent, alors là, c'est le jackpot, quoi. Dire, on a une place beaucoup plus assurément qu'ailleurs, quoi.
Donc, même dans
je fais un gros schéma, hein. Je pense que toutes les crèches ne fonctionnent pas comme ça. Il faut quand même relativiser, mais c'est vrai qu'on en arrive de plus en plus à ça. Parce que le système est comme celui qu'il est.
Et là, tu parles bien des crèches qui sont subventionnées.
Oui, tout à fait. Qui, normalement, devraient accueillir sans discrimination aucune chaque enfant. Et même peu importe la commune. Au départ, c'est ça les règles du code de qualité, et de l'accueil de l'ONE, quoi.
Oui, donc là, c'est vraiment l'État qui remplit pas son rôle de financer une politique
adéquate,
égalitaire.
Oui, en fait, voilà. C'est-à-dire que chaque milieu d'accueil, en fait, a un peu ses critères d'inscription en fonction de son financement. Donc, par exemple, à l'aquarelle, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est vraiment lié à mon financement, le fait qu'une fois que la formation est terminée, je ne peux plus accueillir l'enfant, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, je n'ai pas de dérogation possible. La maman a terminé sa formation, l'enfant n'a plus droit d'être accueilli.
C'est
donc
ça.
Du jour au lendemain, je veux dire, voilà, il fait partie d'une dynamique de groupe. Du jour au lendemain, il faut se mettre à la place de l'enfant qui, subitement, ah, pourquoi est-ce que je peux plus aller à l'aquarelle? Pourquoi est-ce que je peux plus voir mes copains? Voilà, alors qu'ils sont vraiment intégrés. Je pense que ça doit être très dur pour eux. Bon, ils sont petits, donc ils l'expriment différemment. Donc c'est peut-être pour ça qu'on veut pas les entendre, mais je crois qu'il faut vraiment repartir du besoin des enfants, voilà, d'être accueillis. Quelle que soit la situation, du parent. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je crois que c'est vraiment la base.
Tout à fait. J'ai l'impression, en t'entendant, que c'est vraiment pas du tout de cohérence entre les différents types de financement et les projets pédagogiques. J'ai l'impression que c'est un peu toutes des mesurettes comme ça au hasard, un petit peu pour remplir les trous. De l'extérieur, ça, parce qu'au départ, on aurait pu se dire, c'est bien qu'il y ait différents types d'accueil, parce que ça rencontre toutes les demandes. Mais en vous entendant, finalement, c'est pas ça qui ressort.
Non, pas du tout. Donc en fait, c'est vrai que c'est les parents qui doivent répondre aux besoins des milieux d'accueil, et c'est pas du tout le milieu d'accueil qui répond aux besoins des familles, de l'enfant et des parents.
C'est ça, l'inverse. Mais je propose qu'on fasse notre deuxième petite pause et qu'on continue après.
C'est froid là ce matin, quand tu l'as pris par la gambette, on a l'œil qui est pas là, moi j'ai oublié mes bijoux. On a la place d'un océan, dans 100 mètres carrés de terre, et tombent les goélands, mais on n'oublie pas les bijoux. Ça part pour les grandes coquettes, ça sait même pas ce que vaut sa tête. Ça dit que ça reviendra plein de bijoux, et de bonheur avec tout ça, et de rire avec tout ça, et de gloire avec tout ça, avec aussi les drôles de têtes. À faire pleurer les chats. C'est froid là dans les mains.
Rebonjour, donc toujours sur Radio Panique. Vous voyez que l'ambiance est hors pause et chouette aussi. Alors donc voilà, on va poursuivre donc sur l'accueil de la petite enfance, et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas très clair ce qu'on entendait par multi-accueil. Donc je vais peut-être demander à l'une d'entre vous d'expliquer ce que c'est exactement pour nos auditeurs et auditrices.
Donc si on devait rêver, ce serait un endroit où les enfants pourraient s'inscrire dans la durée, quelle que soit la situation des parents. Et donc ça pourrait être dans un premier temps un lieu de rencontre, et puis si la maman ou le papa, enfin peu importe la famille, se dit ben voilà, on aurait envie de le déposer un petit peu, eh ben ça pourrait être quelques matinées, et puis si à un moment donné la situation le nécessite, ce serait un temps plein, et puis enfin voilà, ce serait un lieu qui pourrait accueillir l'enfant quel que soit son besoin et la situation des parents, et évidemment situé un endroit qui serait stratégique pour la famille. Voilà, et alors l'avantage, ce serait que bah, du coup, puisque ce serait quelle que soit la situation des parents que les enfants seraient accueillis, c'est qu'on aurait des enfants de toute origine, de toute situation. Donc on n'aurait pas des endroits où il y aurait que des parents qui travaillent, des enfants que des deux parents qui travaillent, mais on aurait aussi des enfants dont les parents travaillent, des enfants dont les parents sont en formation.
Il y a tellement de situations.
Et donc on aura un brassage social beaucoup plus intéressant. Et puis même au niveau pédagogique, je pense que ça pourrait être intéressant, parce que dans ce genre de situation, on est obligé d'être vraiment actif aux enfants. On ne peut pas être dans une situation canassée où on fait tous les jours la même chose pour rassurer les enfants de la même façon. Non, on serait obligé d'être créatif, d'être ouvert à ce qui se passe, et du coup emmener son groupe dans quelque chose de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus actif.
Merci. Et comme ça paraît effectivement idyllique. On a l'impression, on se dit, ben voilà, c'est ça le projet. Et justement, c'est peut-être une question naïve, mais comment ça se fait que, voilà, ça ne peut pas se mettre en place? Qu'est-ce qui freine concrètement? Qu'est-ce que vous pensez qui freine concrètement la mise en place de ces projets-là?
La politique qui ne visualise pas l'enfant comme un devenir, mais qui visualise l'enfant comme son parent, en fait. Il visualise pas l'enfant dans son entièreté, dans ses besoins, dans son évolution, dans sa visée de citoyen. Et donc du coup, les subsides ne sont pas créés en fonction de l'enfant et de l'évolution petit à petit de la situation de la famille ou des choses comme ça. Il est visualisé. On donne des subsides en fonction des besoins des parents, quoi. Enfin,
c'est ça. Oui, donc on revient à la responsabilité
politique, oui, je pense.
Et je pense aussi que c'est un peu historique, parce qu'au départ, les milieux d'accueil, c'était vraiment pour les parents qui travaillaient, et historiquement, quand les deux parents travaillaient, on mettait les enfants dans un endroit, voilà, quoi. Et c'était plus une garderie, un endroit où on attendait les parents, qu'un endroit où on était actif. Et progressivement aussi, ce qui se passe dans les milieux d'accueil est de plus en plus intéressant pour les enfants. Et du coup, l'idée que chaque enfant devrait avoir droit à être mis dans un milieu d'accueil, à rencontrer d'autres enfants, à être stimulé, c'est une idée qui grandit, on se rend compte de plus en plus que l'enfant est une personne, qu'il est intégré dans un réseau, et plus un paquet qu'on va déposer en attendant que maman revienne du travail. Et donc, le système actuel, c'est un peu un bricolage entre les endroits où on déposait les enfants parce qu'on travaillait, et puis tout ce qui se passe maintenant au niveau de la petite enfance, l'évolution qu'il y a, et qu'on se dit mais il y a plus à faire. Et puis aussi, il y a l'aspect pédagogique qui s'en mêle, parce que on a eu beaucoup l'habitude de fonctionner par rapport à des enfants qui étaient là temps plein, donc avec des péricultrices de référentes, avec des habitudes des ronronnantes, et le fait de se dire qu'on devrait faire autrement, mais ça veut dire qu'il faut vraiment décloisonner beaucoup de choses, voir les choses pédagogiquement autrement. Donc c'est vraiment, je pense, trois, quand tu les modes de subsides, l'historique. Et aussi le fait que pédagogiquement, il faut recréer des choses. Et donc, du coup, ça veut dire stimuler le personnel, les équipes encadrantes, les directions, les CE, enfin tout le monde, quoi.
Oui, c'est là que je rejoins vraiment Hélène. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, par rapport au multi-accueil, on peut rencontrer certains professionnels qui ont des peurs par rapport à ce type d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est habitué d'avoir un enfant 5 jours semaine ou bien mi-temps, et que là, c'est vrai que comme on va répondre aux besoins des parents, de la famille et de l'enfant, on va avoir des enfants qui vont arriver à des moments différents de la journée. Donc, mais nous, à l'aquarelle, on fonctionne déjà comme ça. Donc, on a des enfants qui arrivent le matin, qui partent, et puis c'est d'autres qui arrivent l'après-midi. Donc, c'est vrai que tout notre projet pédagogique et d'accueil tourne autour des temps différents d'accueil de l'enfant, pour que, même si c'est un accueil court, que ce soit un accueil de qualité, et que l'enfant, ce soit un temps important pour l'enfant. Même s'il ne vient que 2 demi-jours par semaine, on peut se dire, oh, il ne vient que 2 demi-jours, tout compte fait. Non, c'est un temps court, il faut que l'enfant se sente rassuré bien, pour qu'il puisse devenir autonome, profiter, s'amuser et être détendu.
Et à ce niveau-là, donc le personnel de l'aquarelle est formé à ça. Donc parce que Hélène, toi tu parlais de la formation du personnel, finalement enfin j'entends vraiment un projet de société, donc un changement de société, et que c'est pour ça que ça freine tellement, c'est l'évolution de la société et encore les structures patriarcales qui sont encore bien là malgré tout, et qu'il faut du temps pour démonter, et donc à travers ça aussi renouveler la formation du personnel encadrant. Pour vous, elle est pas suffisante?
Moi, ça, c'est un débat qui est très complexe pour moi, parce que C'est vraiment très complet. Je pense pas qu'un diplôme universitaire prépare mieux à être dans la présence aux enfants et aux parents. Je pense que c'est pas la longueur des études ni le contenu, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a le savoir être et le savoir faire qui rentre en ligne de compte. Et donc là, moi, je suis vraiment très mitigée. Je pense qu'il faut mettre les moyens dans la petite enfance et peut-être les moyens dans la formation continue, dans le fait d'avoir des échanges entre services, de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs, en Belgique et dans les pays limitrophes. Enfin, je pense qu'il faut vraiment y mettre les moyens. Mais par contre, sur la longueur des formations, je ne sais pas. Je pense aussi qu'on est héritier d'encore une autre situation, c'est que souvent les filles qui font la périculture le font par défaut et pas par choix, parce que quand on est une jeune fille et qu'on travaille pas trop bien à l'école, on vous met en professionnel et puis on vous met en périculture ou en couture. Enfin, c'est un peu grossier comme truc, mais c'est quand même ce qui se passe. Et donc quand on arrive dans une classe de réto, ce qui m'est arrivé une fois, j'ai pu faire une animation, il y avait 2-3 filles, on sentait l'envie de travailler, et franchement je leur aurais confié des enfants sans problème, et puis le reste la classe, on sentait que c'était des filles qui étaient là et qui attendaient de sortir de l'école pour se marier, pour faire d'autres choses dans la vie, mais certainement pas pour être actives par rapport aux enfants. Et donc, voilà, c'est ça la situation aussi. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par contre, on a parfois des adultes qui voudraient bien recommencer une formation et s'investir. Et ça, par contre, on n'a plus de place pour les insérer. En promotion sociale, ben, il y a deux ou trois formations d'auxiliaires de l'enfance peut-être à Bruxelles. Et elles sont bourrées. Et donc, c'est de nouveau les critères de choix pour pouvoir rentrer dans une formation. Si on a déjà fait des études, c'est foutu parce que c'est de l'insertion socio-professionnelle. Voilà.
Et quand même changer le système de formation de manière à ce que, il y a une ouverture pour ceux, celles et ceux qui sont vraiment motivés, quoi.
Oui, et il faudrait pouvoir avoir des gens pour qui c'est le choix de se former là-dedans. Voilà, c'est ça en fait le vrai enjeu, c'est que c'est le système scolaire qui fait qu'on doit choisir quand on a 13, 14 ans et par défaut en plus, puisque notre système de pensée est que il y a très peu de gens qui d'emblée se disent moi je veux faire la périculture, je vais dans une école, on va faire la périculture, donc tu dis à tout le monde, tu sais toujours le général d'abord, enfin voilà. Et puis quand on est adulte et qu'on a envie de se réorienter, on a plein de freins à l'emploi. Il y a parfois des gens qui ont travaillé de longues années dans la petite enfance sans diplôme, qui quand ils changent d'emploi et qui voudraient retourner vers la petite enfance, et toute leur expérience et tout leur savoir-faire n'est pas pris en compte. Et c'est la même chose pour les formations que les mamans font avec moi. Elles apprennent plein de savoir-faire, plein de savoir-être, mais par contre, elles n'auront pas un diplôme qui leur permettra d'emblée d'être reconnues. Et donc, voilà, c'est un peu casse-pied.
C'est ça. Oui.
Par rapport à la formation, moi, je voulais rajouter deux choses. C'est que je crois que parfois même les personnes qui sont en phase de chômage, qui sont à la recherche d'une formation, etc., se disent comme je suis maman, je peux être professionnelle à petite enfance. Là, moi, je voudrais mettre un bémol. Je pense que c'est pas parce qu'on est maman qu'on peut être d'office professionnelle à petite enfance. Je pense que là, par contre, effectivement, une formation adéquate doit être donnée, doit être envisagée pour des questions pédagogiques, pour des questions de créativité professionnelle, pour visualiser les choses d'une autre manière que celle qu'on a peut-être utilisée pour ses propres enfants, parce que chaque enfant est différent et qu'il faut pouvoir s'adapter à l'enfant qui arrive, à ses demandes, à ses besoins. Et alors, autre chose, c'est vrai que je voulais revenir aux accueillantes, au statut des accueillantes et aux accueillantes qui, avant 2003, donc étaient des personnes qui travaillaient dans la petite enfance, mais qui n'avaient pas de statut, donc pas de formation non plus. C'était des personnes un peu comme des nounous, la voisine à côté qui garde les enfants. Maintenant, on professionnalise ça, donc on demande un minimum de 100 heures de formation pour devenir accueillante, mais c'est aussi tous ces dérèglements entre les différentes formations. Moi, c'est vrai que je débarque un peu dans le secteur et je me dis, mais comment ça se fait qu'il y en a qui sont auxiliaires, d'autres péricultrices, d'autres qui doivent suivre 100 heures et c'est bon, alors que finalement, l'accueil de l'enfant est, je veux dire, les besoins en créativité, en accueil correct, etc., sont les mêmes. Enfin, pour moi, c'est bizarre, en tout cas, cette espèce de disparité entre les formations, entre qui peut faire quoi, comment, qu'est-ce, et puis les salaires qui vont en conséquence ou qui maintenant ont évolué. Mais enfin voilà, toutes ces questions-là, en tout cas, moi, restent fort en tête, quoi.
C'est nouveau un manque de cohérence, et donc peut-être qu'il ne faudrait pas une formation universitaire, mais en tout cas, une formation qui soit plus uniformisée pour tous ceux et celles qui sont motivés, quoi, y compris les mamans, et voilà.
Oui, et Tamara me fait un petit signe en disant, mais en plus de ça, effectivement, c'est vrai que les salaires de tout ce qui touche à la petite enfance sont très très bas, et du coup, c'est aussi un facteur d'inégalité sociale, parce que nos gamins qui font la mécanique, ils vont probablement pouvoir vivre décemment de ça, et puis quand on part vers une filière féminine de soins aux autres, eh bien ça c'est bizarre, il n'y a jamais d'argent pour ça, quoi. On tombe sous des sous-statuts comme celui d'accueillante, on tombe sous des sous-statuts comme ceux d'ACS ou des salaires des emplois à durée déterminée, des choses comme ça. C'est une des injustices aussi dans l'accueil, c'est le fait que les personnes qui accueillent les enfants sont toujours en situation très très précaire. On parle même des petits services dans la petite enfance, ce qui est un scandale.
Oui, et donc ça donne peut-être pas envie aux hommes effectivement de s'investir dans ce secteur-là, vu cette différence salariale, et ça fait référence aux stéréotypes construits par la société, effectivement, où hommes et femmes sont dans des filières séparées, et forcément ces filières-là sont considérées comme étant presque de moindre valeur dans la société, alors que à travers notre discussion, on fait que démontrer le contraire, quoi. Et la nécessité, justement, que ce soit pris en charge collectivement pour les citoyennes demain, comme on l'a dit.
Et un peu comme les accueillantes, en se disant, mais on les défraie, c'est déjà bon comme ça. Parce que ça fait partie des rôles sociaux des femmes, des filles, de s'occuper des bébés, quoi. Et tout l'aspect professionnel et tout l'enjeu de société qu'il y a derrière ça, évidemment, c'est pas important.
Alors, voilà. Mais pour continuer sur les enjeux de la société. Juste avant, Isabelle voulait rajouter quelque chose.
Oui, je voulais compléter en fait, donc par rapport à la formation, je pense qu'il est très important aussi par rapport au projet pédagogique, c'est les réunions d'équipe, parce que bon, c'est vrai que les formations sont importantes, mais je crois qu'aussi le débat doit s'orienter vers les réunions d'équipe, parce que c'est avec son équipe qu'on construit son projet d'accueil. Donc c'est vrai que si on doit accueillir par rapport au multi-accueil, donc les enfants à des temps différents, il faut que ce soit une cohérence d'équipe, il faut que tout le monde soit preneuse de fonctionner comme ça. Et donc c'est aussi la difficulté, quand est-ce qu'on met en place des réunions d'équipe? Donc à l'Aquarelle, on fait ça une fois par mois. On se réunit une fois par mois de 5h30 à 7h du soir. Donc c'est en dehors du temps de travail. Donc c'est des heures sup pour les péricultrices qui ont aussi leur vie. Donc c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place, mais on essaye vraiment de s'y tenir, parce que c'est la base pour pouvoir avancer dans des projets comme à l'Aquarelle, avec des enfants qui sont vraiment accueillis en fonction de l'horaire de formation du parent. Donc si on veut vraiment être, je veux dire, égal et accueillir tout le monde, et pas dire moi je ne vais prendre que des formations temps plein, c'est beaucoup plus simple, hop, les autres mamans qui sont en alpha, qui ont cours que 2 demi-jours par semaine, moi je vais pas me casser la tête. Donc non, à l'Aquarelle on a vraiment envie de se casser la tête, et on se casse la tête pour essayer de faire des puzzles. Enfin moi, Hélène est déjà venue voir, mais mes horaires c'est assez à casse-tête, parce que c'est des puzzles, il faut trouver à chaque fois, si un enfant part, c'est à 2 jours semaine, il faut retrouver à 2 jours semaine et tout. Mais voilà, on joue vraiment le jeu, parce qu'on trouve que ça en vaut la peine. Et voilà, je voulais rajouter ça.
Encore une fois, ce sont les accueillantes qui doivent jouer le jeu, finalement, à défaut d'une politique globale, quoi.
Toute
puisque
l'équipe,
tu me dis, vous prenez des heures en dehors de votre temps de travail, donc il y a un véritable investissement, motivation, sans ça, on ne tient pas dans ce type de alt-accueil.
De projet, oui, tout à fait.
D'accord, merci. Alors, par rapport aux enjeux d'une telle politique, j'ai envie de prendre l'exemple québécois. Au Québec, justement, c'est différent. Il y a beaucoup plus d'implication des parents. Ils sont dans chaque conseil d'administration, il y a 2/3 de parents. Et donc, ils ont vraiment un pouvoir sur le projet pédagogique et sur la gestion des centres. Et c'est ce qu'on appelle donc les centres de la petite enfance. Et 80% des frais sont pris en charge par l'État, à savoir que les parents ne paient que 20%, c'est-à-dire 7$ par jour, ce qui fait environ 5€. Alors qu'ici, donc on l'a vu, c'est en fonction
du
revenu des parents. Est-ce que ça vous semble un bon système? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur sur comment ça se passe au Québec, justement?
Oui, donc j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois au Québec dans le cadre de mes vacances, mais voilà, j'ai été visiter des centres de petite enfance pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnaient là-bas. Et donc c'est vrai que c'est totalement différent. Déjà la petite enfance, c'est jusque 5 ans. Donc ça veut dire que l'enfant rentre à l'école à partir de 5 ans. Donc ça veut dire qu'ils doivent gérer les enfants de 0 à 5 ans. Donc ils ont tout un fonctionnement où ils partent de vraiment laisser l'enfant dans la créativité un maximum, ne pas directement le mettre dans un système scolaire. Et aussi donc par rapport aussi à l'ouverture et l'égalité, donc c'est 7$ pour tout le monde. quel que soit le revenu des parents, quelle que soit la situation des parents, l'enfant est accueilli. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'a séduite quand j'ai été. Je me suis dit, waouh, quoi, c'est juste que c'est à Caen. Et quel que soit le statut des parents, ben, l'enfant a la chance d'être accueilli et a la chance, je veux dire, au même titre que tous les enfants, de bénéficier d'une même qualité d'accueil. Parce que nous, c'est vrai, on a même les crèches privées, on a des crèches qui donnent de la nourriture bio, des langes bio. Enfin bon, on peut tomber vraiment ici en Belgique avec des profils de milieux d'accueil totalement différents. Tandis que là, au Québec, c'est vraiment les centres petite enfance qui accueillent les enfants, quelle que soit la situation du parent.
Oui, moi j'étais étonnée en fait en me renseignant du nombre de types d'accueil qu'il y avait. J'ai par exemple les accueillants d'enfants, les maisons d'enfants, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les pré-gardiennats communaux, les crèches communales, les crèches privées. Et donc voilà, à chaque fois des différents types de structures qui sont subventionnées ou pas. Et puis voilà, il y a les accueillants d'enfants à domicile.
Très complexe en Belgique, ça on peut le dire. Mais c'est pas.
Je pense que par rapport aux rêves qu'on évoquait tout à l'heure, je pense que l'un n'est pas indissociable de l'autre dans le sens où les projets pédagogiques de chacun des lieux pourrait, je sais pas moi, tendre plus, par exemple, bio. Ils décideraient que ce serait un peu plus bio. Ben, pourquoi pas que dans le projet pédagogique, eux aient envie de s'ouvrir à ça. Pourquoi pas? Puisqu'on a des tas de gens. Mais le tout, ce serait que chacun puisse accéder à ces projets, comme l'accueil de type familial. Je crois que nous, en tout cas, au sein du Ballon Rouge, on essaie vraiment de faire sans discrimination aucune. C'est vraiment chronologique. Mais c'est même déjà une discrimination chronologique, puisque, enfin, on est un peu coincé par rapport à ça. Mais dans le sens où on essaie justement que tout parent, qu'il ait une formation, pas de formation, qu'il soit travailleur, pas travailleur, puisse accéder à une place d'accueil. Et nous, le seul cadre qu'on met, c'est effectivement le moment où le parent fait son inscription. Mais déjà là, effectivement, on discrimine un peu puisque certains parents ne réalisent pas qu'ils doivent s'y prendre à temps, ne sont pas dans cette démarche-là. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore vraiment trouvé d'autres alternatives par rapport à ça. Mais donc, pour en revenir au type d'accueil, je crois que le rêve du multi-accueil qu'on évoquait tout à l'heure n'est pas sera toujours en lien quand même avec un projet pédagogique qui peut être légèrement variant d'un lieu à un autre. Et le type familial, qui est celui des accueillantes, est quand même quelque chose de très chouette et qui, par exemple, au niveau social, peut correspondre à un enfant qui a besoin de ne pas être dans un énorme espace avec, je sais pas moi, 9 autres petits compagnons ou 10 autres petits compagnons, mais se retrouve un peu plus cocon, un peu plus, voilà, ils sont 4 ou 5, ça correspond à certains enfants, aux besoins de certains enfants, etc. Et je crois que ça, il ne faut pas le perdre pour autant, perdre cette nuance-là, mais je crois que c'est dans le projet pédagogique que ça doit se trouver et pas dans l'offre et la demande. Et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de ça, quoi.
C'est du capitalisme, hein, l'offre et la demande, c'est vraiment oui. Ça. On est dans une violence capitaliste.
Mais c'est vrai que par rapport au Québec, il y avait aussi tout le volet application parentale qui est vraiment un volet important. Donc ça aussi, c'est vraiment super de se dire qu'il y a des parents, je veux dire, voilà, qui s'investissent. Et je suis sûre, enfin, Hélène, toi qui as une garderie parentale, que les parents ne demandent que ça, qu'on les applique dans les milieux d'accueil. Que ce ne soit pas un frein, et c'est pas pour ça qu'ils vont venir prendre le pouvoir, qu'ils vont commencer à gérer les choses, qu'ils vont discuter sur les péricultrices, sur la norme manière de fonctionner. Donc c'est tous aller dans le même sens pour le bien-être des enfants et de leurs propres enfants.
Une question de solidarité et de coopération finalement.
Oui. Et donc nous, par exemple, maintenant au Ballon Rouge, on a deux mamans qui font partie du conseil d'administration, et c'est vraiment voilà des femmes très dynamiques qui apportent une réflexion. Et en plus, comme elles connaissent, c'était des mamans de l'aquarelle, donc comme elles connaissent les lieux aussi, quand j'explique quelque chose en conseil d'administration ou quoi, directement elles voient le problème avec les poussettes qu'il fallait plier, enfin bon, toutes les petites choses comme ça, parce qu'elles l'ont vécu elles-mêmes. Donc elles sont beaucoup plus dynamiques, elles rebondissent beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment un réel échange, c'est très très riche.
Et surtout de pas sectionner, enfin de j'ai l'impression que par moment on est vraiment le professionnel a raison et le parent il sait plus être parent, quoi. Mais non, enfin je veux dire, oui, c'est sûr, il y a des professionnels, des gens formés, comme on le disait tout à l'heure, ben n'est pas professionnel petite enfance toute personne qui a des enfants. À côté de ça, le parent, ben il est aussi au quotidien avec son enfant, il connaît son enfant, il a une expérience à faire valoir auprès des professionnels. Et je pense que c'est dans l'échange de ce genre de choses et pas dans la fermeture chacun de son côté. Donc le parent, ben lui, c'est à partir de 5h30 qui vient, qui prend son enfant, enfin je caricature. Et puis le professionnel durant la journée, c'est lui qui est la personne adéquate. Non, je crois que c'est vraiment dans l'échange et dans la collaboration que que les choses se mettraient au mieux, quoi.
Et c'est de nouveau partir des besoins de l'enfant. Voilà. Et on peut même parler de ce dont tu as parlé tout à l'heure, Hélène, avec ces mamans qui ne trouvent plus de place à l'école pour leur enfant de pas de place à l'école pour leur enfant de 2 ans et demi. Donc là aussi, il y a un lien à consolider entre les écoles et les milieux d'accueil de la petite enfance.
Ça, ce serait le rêve.
Si. Voilà. Oui, bah, rêvons justement, et on continuera de rêver après une dernière pause musicale.
Chat perché, veut jouer à cache-cache. Chaque chat perché va charmer un peu pour chasser. Chat perché, veut jouer à l'amour vache. Sache chat perché que ma cache pour me cacher. T'auras beau me charmer, t'auras beau me chambrer. Les chats te chavoter ne marchent plus à la cravache. T'auras beau te charmer, t'auras beau arracher. Les chats te chavoter.
L'accès à des murs, tout simplement, à la location ou à la construction d'immeubles, ça c'est les contrats de quartier, c'est le fait qu'on puisse survivre via des emplois qui seront financés, et ça c'est tout ce qui est ACS, donc ça c'est le ministre plutôt de l'emploi. Et puis il y a au niveau de la cohésion sociale, peut-être on cherche à grappiller tous les frais de fonctionnement. Et puis au niveau local, il y a encore les échevines de la petite enfance qui ont encore son mot à dire par rapport à ça. Je dis échevines parce que c'est très peu d'échevins, et c'est souvent des gens qui sont pas très porteurs qu'on met au niveau de la petite enfance. Et donc la commune peut avoir une politique active ou pas active par rapport à ça dans la mise à disposition. En fait, pour ouvrir une crèche, il faut savoir que actuellement, il faut pouvoir rentrer dans un plan d'ouverture de crèche. Je ne sais plus si ça porte un nom, mais il faut, et donc du coup, il faut être très fort financièrement. Donc, qui peut faire ça? Ben, ça ne peut être que les communes ou alors des opérateurs privés. Et le problème avec les opérateurs privés, c'est qu'effectivement, ils ont les moyens. Et que du coup, ils sont pas non plus très généreux. Ils ont des moyens et ils le mettent à disposition des gens qui ont les moyens. Donc ça va être de l'accueil privé. Et tout ce qui est associatif et qui est au plus proche vraiment de la réalité des personnes, là, par contre, c'est effectivement bricolage, cohésion sociale, la Fondation Roi Baudouin, pour essayer de chipoter, pour avoir un budget qui tienne la route une année, 2 années, et puis parfois on dure un peu plus que ça, parfois on se casse la figure. Voilà quoi.
Merci. Donc on en à la même chose, à ce manque de cohérence à tous les niveaux. Moi, c'est ce qui me frappe. Je voulais parler
du bricolage.
Oui, du bricolage, comme tu dis. Je voulais parler également par rapport à ça et à cette responsabilité collective. Il y a bien sûr un lien avec le partage des temps de travail entre hommes et femmes, les congés parentaux, le fait que ce métier puisse être accessible aussi. Aux hommes, est-ce que, enfin ça c'est une réflexion plus globale, voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça?
Ça demande un tellement grand changement de plein de choses, parce qu'il faudrait d'abord que les petits garçons se disent qu'ils peuvent être périculteurs, et ça c'est déjà très courageux. Enfin, je veux dire, il y a, c'est tellement compliqué d'être un garçon et de dire, eh bien moi j'ai envie de m'occuper des autres. Les petits garçons qu'on sent un peu sensibles, qui pourraient partir vers quelque chose de cet ordre-là, ils se font démolir. Donc même s'ils avaient l'envie, il faut beaucoup de courage pour aller jusqu'au bout. Et même pouvoir déposer son enfant à un homme, c'est encore un pas qui n'est pas facile à franchir. C'est pas si évident, c'est vraiment un changement de société à faire, mais vraiment en profondeur, quoi. Oui. Et puis effectivement, ben il y a la question des salaires, et ça, on est aussi dans une société où c'est très ça reste encore dans l'esprit de tous, et des gamins aussi, qu'ils vont devoir ramener l'argent pour faire tourner la famille, tourner le ménage, et que les filles, ben, si c'est un peu moins d'argent, c'est pas trop grave, c'est le salaire complémentaire. Et donc là aussi, il y a des choses à faire pour que les garçons aient un peu plus de, enfin que ces salaires-là soient revalorisés, et que les conditions de travail soient peut-être un peu meilleures aussi. Voilà.
Oui, on voit que tout est lié, mais c'est vrai que moi, je me disais, je pense que les papas qui veulent partir plus tôt pour aller chercher leur enfant, pour s'occuper de leur enfant, partir plus tôt de leur travail, c'est encore très mal considéré. Donc là aussi, il y a des choses à faire.
Oui, sur les crédits temps, c'est à 80% des femmes qui les prennent et à 20% c'est les hommes. Et sur les 20% où c'est des hommes, je ne suis pas sûre que ce soit réellement toujours pour s'occuper des enfants. Ça peut être pour relancer sa carrière, faire des formations et tout, tandis que les filles, ce sera, je dirais presque à 100%, uniquement pour faire en sorte que la vie de famille et la vie de travail soient compatibles. Parce que voilà, c'est ça aussi l'enjeu. C'est que la vie de famille et la vie de travail, c'est très très difficile à mettre ensemble. Et les besoins de chacun, des enfants, des adultes et de la société, c'est vraiment complexe. Hein. Pour arriver à faire tenir tout ça dans un temps familial, c'est une folie pure.
Donc le bricolage, c'est vraiment pas suffisant.
C'est épuisant.
Et c'est épuisant en plus. Et vous en avez des papas qui viennent déposer leurs enfants? Je suppose que c'est pas la majorité.
Ben à l'aquarelle, on a pour le moment pas mal de papas qui viennent rechercher l'enfant, parce que comme les formations se terminent de plus en plus tard et qu'on a beaucoup de mamans qui sont en stage en cette période de l'année, donc ce sont les papas qui viennent chercher leur enfant et ça se passe très bien.
Donc il y aurait aussi une volonté des papas de peut-être s'inclure davantage, s'ils avaient la possibilité, disons, de...
Ça je ne peux pas dire, je ne peux pas faire une généralité, mais en tout cas, je vois en tout cas que ça se passe vraiment très bien et que là, ben oui, les mamans, parce qu'on a beaucoup de mamans qui font aide familiale, infirmière, donc il y a des stages et que c'est des stages dans des hôpitaux, donc ce qui veut dire qu'elles ont des horaires décalés. Et donc on a vraiment vu donc les papas qui prennent les choses en main et qui viennent chercher leur enfant, qui sont... Bon, on a un petit coin d'accueil parents, je veux dire qu'ils participent vraiment à la vie de leur enfant à l'aquarelle et c'est très très positif.
Et nous on a aussi quelques papas en fait qui poussent timidement la porte, pas nécessairement dans la garderie et dans le quotidien, mais aussi via un projet qui s'appelle l'Université Populaire des Parents, donc c'est vraiment un mouvement plutôt citoyen par rapport à l'éducation de la petite enfance. Et là, Sans même les chercher, ils viennent, ils arrivent. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi une question de faire la place. Et puis, ce que je voulais dire aussi, quand même, c'est que les lieux d'accueil et les lieux de rencontre, là où les enfants viennent jouer, pour moi, en tout cas, c'est un lieu d'éducation non sexiste. Et donc, là, moi, je prends vraiment ma responsabilité d'adulte accueillant. Et moi, je travaille ça au quotidien avec les enfants et avec les parents, de dire, quand un petit garçon pousse la poussette, en disant, mais oui, c'est important qu'il apprenne à pousser une poussette, qu'il joue à la poupée, parce que quelque part, ça lui ouvrira des horizons plus tard à être un papa actif et dans le soin aussi aux enfants. Donc voilà, les changements de société, c'est aussi dans la petite enfance et au quotidien, quand on peut dire aux parents, mais laissez vos gamins et vos gamines évoluer, laissez-les choisir ce qu'ils aiment, et puis si effectivement il y a des petits garçons qui sont sensibles et qui aiment jouer à la poupée, eh bien il faut laisser faire, parce que ça fera des chouettes papas, des chouettes maris. Voilà quoi.
Ben, merci Hélène, je propose de terminer sur ça parce que je trouve que c'est une belle conclusion. Et voilà, j'espère qu'on aura pu répondre à certaines questions par le biais de cette émission. Et je vais remercier mes intervenantes, je vais remercier toutes celles qui ont participé à la préparation, Tamara pour le support technique et vous auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Et si ce thème vous a intéressé et que vous désirez avoir plus d'informations, eh bien n'hésitez pas à contacter Vie Féminine Bruxelles au 02 513 69 00. À tout bientôt.
Et moi, je voulais dire aussi, avant de quitter, que Vie Féminine se mobilisait et que dès le printemps, on allait se mobiliser sur une campagne un enfant, une place. Et donc, en interne, d'abord, au niveau de nos services, vraiment réfléchir à comment faire pour que chaque enfant puisse être accueilli. Et puis, on ira dans l'espace public le crier haut et fort. Voilà. La massa pari o dama lo ti dama via copia ciura la massa pari o dama lo ti dama.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes.
Je l'avoue,
elle les confronte pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.